L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Transistor, ex-radio évasion, à midi en direct, en rediffusion à 18h. Et aujourd'hui, nous accueillons une de nos adhérentes, Véronique Leroux. Vous découvrirez à la rentrée sa nouvelle émission Politeia, des interviews de femmes et d'hommes engagés en politique locale. Mais aujourd'hui, Véronique vient nous parler de son autre vie, sa vie parallèle de l'autre bout du monde. Non, pas la pointe du Raz, ni la pointe Saint-Mathieu, ni la Presqu'île. Un bout du monde qui a beaucoup fait parler de lui, d'elle, puisqu'on dit la Nouvelle-Calédonie. On dit aussi le Caillou, pas très valorisant, mais sans doute affectueux. Un projet de réforme électorale de ce territoire d'outre-mer a mis le feu aux poudres. Désormais, l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale met en pause ce projet. Il semble que la situation s'apaise là-bas. Enfin bon, sauf hier, de nouvelles émeutes ont éclaté, car 7 militants qui étaient contre la réforme ont été arrêtés, emprisonnés dans l'Hexagone, ce qui a de nouveau attisé la colère. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Donc, c'est une situation d'actualité. C'est vrai qu'on fait peu d'actualité dans l'EM, mais là, on va faire finalement de l'histoire, on va faire de la mise en perspective avec toi, parce que tu connais bien la Nouvelle-Calédonie. Et on va commencer par une mise en perspective historique qui va nous permettre de comprendre pourquoi il y a ces tensions énormes en Nouvelle-Calédonie.
Ok, donc tout est parti au départ de la réforme projetée en fait du corps électoral, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Mais derrière cette modification, cette réforme, en fait, il y a une question beaucoup plus large, qui est vraiment une question politique en fait, avec un très grand P. C'est finalement qui en Nouvelle-Calédonie est en droit de répondre à la question suivante. C'est celle qui a été posée au moment des référendums. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? C'est quand même pas une mince affaire. Ça veut dire qu'en Nouvelle-Calédonie, heureusement, les gens peuvent voter. Là, bientôt, il y a des élections, ça n'échappe à personne. En Nouvelle-Calédonie aussi, bien sûr qu'ils peuvent voter. Là, on est vraiment sur un corps électoral dédié à ce qu'on appelle le voter pour les provinces, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, etc. Donc, ce que je voulais quand même donner deux, trois mots un peu d'histoire, parce que ce qui m'a marqué, moi, c'est que autant l'histoire de Vercingétorix et de nos ancêtres, les Gaulois, qu'on a enseignés hein, aux Canaques, notamment les missionnaires.
Donc les Canaques, c'est ceux qui sont nés.
Les Canaques sont les Mélanésiens, voilà. Ce sont les populations autochtones qui sont là depuis un peu plus de 3000 ans. Autant on leur a enseigné que leurs ancêtres étaient les Gaulois, ce qui peut paraître un peu particulier, voilà. Autant en fait, nous, on est vraiment concernés par la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, elle fait partie de l'histoire de France. Au même titre que l'Algérie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux colonies de peuplement. Il y en a eu deux, voilà. Alors, une troisième, c'est l'Acadie, mais c'est tellement vieux que Québec, tout ça.
C'est-à-dire des Français qui sont partis, enfin des hexagonaux qui sont partis dans ces territoires très éloignés.
Il y a eu plusieurs vagues de colonisation. La première vague de colonisation, en fait, c'était le bagne en Nouvelle-Calédonie.
Là, c'était pas très volontaire.
Ça, c'était pas volontaire du tout au départ. En fait, c'est quand même une histoire aussi qui est très, très contemporaine. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai quand même pris, parce que je voulais pas me tromper dans les dates, c'est 1853. Le drapeau français en fait est planté sur le sol de la Calédonie. Je t'écoutais tout à l'heure dire le caillou. Le caillou, c'est parce qu'en fait il y a du nickel, beaucoup de nickel dans le sous-sol.
Ça, on l'a vu tout de suite, quoi. Enfin, en 1853, on savait déjà qu'il y avait du
nickel. Mais très peu de temps après, c'est Jules Garnier, de mémoire, qui était un géologue, qui a été envoyé par Napoléon III, c'était à l'époque de Napoléon III, qui a été envoyé pour regarder un peu ce qu'il y avait dans le sol, dans le sous-sol, parce que même si on allait installer un bagne, c'était intéressant de voir si ça pouvait être intéressant, au cas où, et c'était bonne pioche, voilà. Mais donc, c'est donc une histoire très, très contemporaine, parce que 1853, quand on regarde bien, c'est 7 générations en arrière.
C'est pas énorme, finalement.
Voilà. Donc voilà, ça fait partie de notre histoire. Ça c'est vraiment quelque chose que... c'est pas un truc en plus. Alors, qu'est-ce que c'est une colonie de peuplement? Une colonie de peuplement, c'est quand la France décide de manière extrêmement volontariste d'envoyer des citoyens français pour peupler un archipel, une île, enfin bref, une contrée, et faire en sorte que la culture locale puisse être dilué dans la culture des occupants. Donc la première phase, c'est le bagne.
Donc là, c'est des gens qui sont peut-être pas, ils sont peut-être pas partout, quoi. Ils sont forcément, ils sont incarcérés. Donc
tout au début, c'est Nouméa quand même. Parce que tout au début, ils viennent à Nouméa, la capitale, c'est Nouméa. D'accord. Peut-être pour resituer, je sais pas. Enfin, c'est pas très très grand la Nouvelle-Calédonie. C'est un archipel. Donc il y a la Grande Terre qui est l'île principale. Après, il y a les îles Loyauté et l'île des Pins. En tout, il y a 270 000 habitants à peu près.
Donc c'est petit.
C'est petit. Bon.
Et à l'époque, j'imagine que les Kanaks n'étaient pas très nombreux.
Alors à l'époque, j'ai pas le chiffre exact, mais en réalité, ils étaient plutôt assez nombreux. Je crois qu'en fait, ça a diminué de moitié en quelques années. Et moi, les chiffres que j'ai, c'est 40 000. Donc, ils devaient quand même être assez nombreux. Et en même temps, ils fonctionnaient sous forme de clans, tribus, etc. C'est-à-dire que pour les colons, c'était ce qu'on peut appeler, nous on dirait, dans les livres on voit le mot indigène, hein, d'où le nom de code de l'indigénat, mais peut-être tout à l'heure j'aborderai ça. Mais en tout cas, ils les appelaient les sauvages. Enfin bon,
bien sûr, bah oui, ça
voilà.
Il n'y avait pas de pouvoir central aussi, c'était ça.
Absolument.
Un peu. Voilà, donc absolument. Chaque tribu était sa propre souveraine, puis ils cohabitaient. Enfin, il n'y avait pas trop de guerre entre eux.
Alors, il n'y avait pas trop de guerre entre eux. C'est-à-dire que quand les Européens sont arrivés, après l'arrivée des Européens, il y en a eu.
Entre eux.
Oui, il y en a eu entre eux d'abord parce qu'il y a plusieurs langues, il y a 28 langues vernaculaires. Il y a aussi des montagnes, donc en fait, il y a des gens qui ne se connaissaient pas, etc. Et surtout, quand les colons sont arrivés et qu'il y a eu des confiscations de terres, à ce moment-là, les Kanaks ont été envoyés et regroupés dans des réserves, comme on a pu connaître dans d'autres pays.
Les États-Unis, par exemple.
Voilà, et donc mélangés.
On ne faisait plus cas des tribus, en fait, c'est ça?
Pas du tout, non. Non. L'idée, c'était de prendre des bonnes terres qui sont dans tout le côté ouest de la Grande Terre. Elle est toute longue, hein. Il faut, je ne sais pas, comme une baguette de pain, quoi. Voilà, c'est tout étroit comme ça, et tout long, avec une chaîne au milieu qui culmine à, je ne sais pas, 1500, peut-être 1700, pas plus que ça, mais il y a quand même des montagnes. Et donc côté ouest, les terres sont excellentes et évidemment ce sont les terres qui ont été données aux colons. Donc la spécificité en fait d'une colonie de peuplement, c'est donc au départ c'était donc le bagne. Il y a quand même quelqu'un de très connu qui s'appelle Louise Michel qui a connu le bagne de Nouméa, mais elle en tant que déportée politique, c'était un peu différent. Il y a eu aussi des Kabyles qui ont été déportés politiques au moment de l'insurrection de 1871 aussi, je crois. Enfin bref.
En Algérie, donc.
Voilà. Oui. Et donc là encore, on retrouve énormément de gens qui viennent d'Algérie. Il y a même une vallée qui s'appelle la vallée des Arabes, donc c'est assez rigolo. Parce qu'on ne s'attend pas à ce que ça soit aussi multiculturel que ça. Et puis ensuite, il y a eu une colonisation beaucoup plus organisée, où en fait on promettait aux gens qui arrivaient des terres. Donc pour leur donner des terres, hein, il fallait bien les trouver.
Il fallait bien chasser des gens.
Voilà. Donc en fait, derrière cette question de la réforme du corps électoral, c'est ça l'idée. Aujourd'hui, il y a eu tellement de vagues successives de populations qui sont arrivées que les Mélanésiens, ou les Kanaks, Kanaks d'ailleurs, entre parenthèses, ça veut dire homme libre. C'est assez joli, surtout quand on sait que pendant extrêmement longtemps, ils ont subi ce qu'on appelle le code de l'indigénat. Enfin, c'était pas seulement en vigueur, c'était en vigueur aussi en Algérie, c'était en vigueur dans d'autres endroits, mais qui fait qu'en fait, ils n'ont pas de droit.
C'est des sous-citoyens, quoi. Enfin, c'est pas des citoyens.
C'est pas des citoyens, voilà, c'est ça. Et justement, le droit de vote, ça, c'est quand même intéressant, parce qu'on parle de vote,
bien sûr,
quand même.
Bien sûr,
Et je trouve que c'est intéressant, parce que...
qu'ils ont eu
Alors, le code de l'indigénat, déjà, c'est en 1887. Donc là, aucun droit civil. Et puis, ensuite, c'est quand même assez énorme. C'est en 1946. Parce qu'en fait, ils sont allés faire la guerre plusieurs fois. C'est quand même sympa. Hein. Enfin, on n'a pas trop demandé leur avis.
Bon, donc là, ils ont le droit de voter quand même.
Voilà. Ouais. Donc à partir de 1946, ils disent, oh, quand même, ils sont sympas.
Comme les femmes, en fait, quoi.
Absolument.
Comme les femmes, c'est l'Hexagone.
Après-guerre, c'est ça. Et donc, en fait, là, sauf que c'est quand même un stade au-dessus, parce qu'ils n'avaient pas le droit de circuler non plus. Et ils étaient réquisitionnés pour travailler pour l'administration et les colons. Et c'était payé au lance-pierre. Et donc là, ils obtiennent la liberté de circulation, 46, donc les droits civils, et le droit de vote. Donc on y arrive au droit de vote. En 1946, il y a 267 Kanaks qui vont avoir le droit de voter.
Pourquoi seulement 267?
Et il faut attendre 1957. Alors, l'air de rien, 1957, là, ça devient tellement contemporain que c'est quand même quelques années avant ma naissance, hein, donc c'est très très contemporain, pour que les Kanaks soient autorisés à voter, en fait, chez eux,
tout le monde,
pour l'avenir
quoi.
De ouais. leur pays. Voilà. Donc on peut imaginer ce que ça peut provoquer. Et là, je ne parle pas des jeunes, parce que ce qui se passe en ce moment, la situation insurrectionnelle, peut-être on l'amendera, mais oui, c'est plus les jeunes. Voilà. Mais pour cette histoire-là...
Donc le souhait d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie date de quand? Enfin, quand est-ce qu'il s'est exprimé vraiment sur la scène politique, on va dire quoi?
En fait, il s'exprime... le mot indépendance, il n'apparaît pas tout de suite. Mais les premières révoltes kanak, elles commencent très tôt.
Ah oui, quand?
Elles commencent en 1878.
Ah oui,
c'est très, très tôt. Et d'ailleurs, il y a... Enfin, ce n'est pas une anecdote, c'est un peu terrible, je trouve, mais ça correspond à une époque. Il y a un grand chef à cette époque qui s'appelle le chef Attaï, qui est le chef de l'insurrection. C'est la première révolte. Il se fait couper la tête. Bon, ça se termine. Et son crâne est envoyé en France et va rester au Musée de l'Homme pendant des années et années. D'ailleurs, ils vont le perdre. À un moment donné, il va s'agir de le retrouver parce qu'on ne sait plus où il est. Et comme quand même les choses évoluent, parce qu'il y a quand même d'abord les accords de Matignon en 88, enfin, c'est l'époque où j'y étais moi, et puis les accords de Lomé en 98, enfin, les choses s'apaisent progressivement.
Donc du XXe siècle, hein, je précise, 1988 et 1998.
Oui, là, on est 1900.
C'est-à-dire qu'on a quand même attendu plus de 100 ans.
Assez longtemps, et en 2014, en fait, le crâne, et puis il restait quelques ossements de taille, sont rendus aux descendants. Et voilà, il y a une
c'est un peu symbolique, quoi.
Ouais, c'est très symbolique.
Et donc, les accords de Nouméa prévoyaient ce corps électoral spécifique pour l'autodétermination. En fait, c'est ça. Hein,
c'est ça.
Qu'est-ce qu'il dit exactement le...
Alors, en fait, ça commence quand même 10 ans avant. Ça commence en 88, parce qu'en 84, enfin, moi, je suis arrivée en 85, mais ça démarre décembre 84 de mémoire. Il y a 4 ans qu'on a appelé les événements. J'allais dire les anciens. Enfin, ceux de mon âge qui sont en Nouvelle-Calédonie appellent ça plutôt quand même... c'était vraiment comme une guerre civile, parce que c'était assez dramatique. Ça se passait plutôt en brousse, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où tout est... Enfin, tout, presque tout. Aujourd'hui, parce que là, je ne sais pas trop ce que ça va devenir avec l'arrestation des membres de la CCAT, mais en tout cas, aujourd'hui, ça a démarré à Nouméa. Là, c'était l'inverse. À Nouméa, il ne se passait rien, si ce n'est que tout Nouméa était encerclé par des... Je ne sais pas si on dit chars, tanks, enfin des... Bref.
L'armée. Par l'armée, oui.
Par l'armée. Ouais. Et c'était en brousse que ça se passait. Et c'était vraiment une population qui se déchirait et c'était très, très clivé. C'était ce qu'on appelle les caldoches. Donc là, les caldoches, je peux expliquer. Les caldoches, ce sont vraiment les descendants de colons, les tout premiers. Sinon, on dit les Calédoniens. Donc, les Caldoches, soit ce sont des descendants de bagnards. Bon, je rappelle qu'à l'époque, tout le monde voit à peu près Jean Valjean, Victor Hugo, voilà qui c'est. On pouvait aller au bagne pour quand même pas grand-chose. Voilà. Mais ce sont soit des descendants de bagnards, soit des transportés. C'est-à-dire vraiment ceux qui
sont restés, en fait. La plupart sont restés.
C'était interdit de repartir. Oui. C'était interdit de repartir, d'accord. Sauf pour les déportés politiques.
C'est ça.
Qui avaient le droit de retourner. Mais les autres n'avaient plus le droit de quitter l'île. Et donc, on leur donnait aussi des petites terres, ça faisait partie des gens extrêmement pauvres. Donc les Caldoches, soit sont issus de ce mouvement de colonisation-là, soit des colons, qu'on appelle les colons Feuillet. Ça, les colons Feuillet, c'est vers 1900 par là, à peu près. Et il avait quand même dit un truc incroyable, il avait dit, c'est un gouverneur, il avait dit, il est temps d'arrêter le robinet d'eau sale. C'était la colonisation pénale, que ça s'appelait comme ça,
ah oui,
colonisation
d'accord,
pénale. Ça a toujours été une colonisation de peuplement. Ouais. Je rappelle, parce que c'est quand même pas anodin. Il est temps d'arrêter le robinet d'eau sale et d'ouvrir le robinet d'eau propre. C'est élégant.
Donc, vous avez des Français qui, voilà, en gros, n'avaient rien fait, c'est ça.
Et donc, à partir de ce moment-là, en 5 ans, c'est très court 5 ans, il y a eu à peu près 500, les 500 personnes qui sont venues de France et qui ont récupéré des terres.
Donc, en quelle année à peu près
C'était tout début, c'est 1898. Et
ah oui, donc c'est arrivé tôt, quoi.
Donc, en fait, ceux-là s'appellent les Caldoches.
D'accord.
Et ce qui est fou, c'est que ces gens-là se commençaient à... Enfin, c'est pas ce que... Ils s'entretuaient, en fait.
Ah ouais.
Alors qu'en réalité, ce sont, en dehors de quelques-uns, qui sont des grands propriétaires La Fleur.
Jacques Lafleur.
Voilà. Ouais. Ou, je sais pas, Balland. Enfin, bon,
ouais, qui ont fait politique, qui sont, qui sont devenus politiques. Ouais.
Mm-hmm. Oui, voilà. Ou qui sont des très grands industriels locaux. En dehors de ces gens-là, qui sont aussi des caldoches, ce sont plutôt des gens qui sont... qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le principe d'une guerre civile.
On et se donc, bat avec son voisin. Ils se battaient entre eux, les caldoches,
ouais, ouais, même dans les familles,
et
parfois.
Et les canaques, là-dedans.
Alors, c'était caldoches contre canaques.
Ah oui, d'accord. C'était donc caldoches c'était quand même
contre canaques. Ouais, ouais. Mais j'allais dire que si on faisait une petite posture méta sur, en termes socio-économiques, c'était les pauvres contre les pauvres.
Voilà. Ouais, d'accord.
Comme ça... Bon.
Et donc, le corps électoral a été défini pour
alors,
tous ces gens.
En 88, accord de Matignon, c'est la poignée de main entre Tjibaou, Jean-Marie, et Jacques Lafleur, dans un contexte comme ça. Hein, donc, c'est pas courageux
d'avoir... Caldoche et Canac, voilà. Se serrent enfin la main.
Jean-Marie Tjibaou, c'était le leader du FLNKS, le Front de Libération...
National, des Canac,
socialiste Canac, mm-hmm. Et Jacques Lafleur du RPCR. Je l'ai plus, enfin RPCR, c'était l'équivalent du RPR, mais en Nouvelle-Calédonie. Et donc là, à l'époque, c'est Rocard, Michel Rocard. Il est décidé de faire une pause pendant quelques années pour prendre le temps d'accompagner des jeunes Canacs. Les envoyer en France pour faire des études, pour qu'ils reviennent, qu'ils soient avocats, médecins, journalistes. Voilà, ça s'appelait l'opération 404, bon, etc. 10 ans après, il y a les accords de Nouméa, et là, il y a un point pour voir où on en est. Ça fonctionne très bien. Là, on travaille le rééquilibrage, ça fonctionne très, très, très bien. Et, mais c'est en 10 ans, on ne va pas rattraper tout ce temps-là. Donc, les accords de Nouméa, alors là, c'est... C'est Jospin, je sais qu'il y avait même Jean-Jacques qui revoit cela. Enfin bref, voilà. Donc là, c'est, mais là, j'y suis plus, moi. Mais je m'y intéresse quand même, mais j'y suis plus. Je suis repartie en France, enfin en métropole. Là, il est décidé qu'il y aura 3 référendums qui vont être échelonnés dans le temps. Alors le premier, c'est en... Si ma mémoire est bonne, c'est 2000. Mais là, tu vas peut-être m'aider. Hein, le premier, je sais que le dernier, c'est 2021 décembre, le 12 décembre, parce que c'est mon anniversaire. Comme ça, vous saurez tous. Il y avait 2018. Bref.
Donc les dates, les années étaient fixées, en
ouais.
tout cas.
Ouais, non, pas celui de 21. Pas celui de 21. Voilà. Et celui donc, de 21, non, celui-là n'était voilà. pas fixé. Celui-là.
Et donc, qui avait le droit de voter, là
Alors, c'est ça l'histoire du corps électoral. Mm-hmm. C'est-à-dire que les seuls qui avaient le droit de voter étaient ceux qui étaient là en 88 mm-hmm. ou qui ont eu des enfants qui sont nés à partir de 98.
D'accord. Hein, tu vois, donc, il faut des gens qui étaient déjà implantés.
Donc, ça fait quand même très longtemps. C'est-à-dire qu'il mm-hmm. y a plein de gens en Nouvelle-Calédonie qui se disent, c'est vrai que sur un plan, si tu retires tout le contexte politique, mm-hmm. on l'enlève. Mm-hmm. Quelqu'un qui est en Nouvelle-Calédonie, qui est arrivé dans les années 2000, c'est quand même 24 ans.
Et bah oui, il peut pas voter.
Mais pourquoi ? Alors, ouais. il vote pour tout, les européennes, sauf ce que tu veux, ça. Les présidentielles. Mmh. Mais il vote pas pour le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, mmh. parce qu'il y a un mmh. gouvernement en Nouvelle-Calédonie, il y a un congrès mmh. aussi. Et surtout, il vote pas pour est-ce que vous voulez devenir indépendant ou pas. Mmh. Première fois, ils sont très étonnés, l'État français est très étonné parce que j'ai plus le pourcentage en tête, mais il est très très fort en termes de oui, on veut être indépendant, beaucoup plus fort. C'est presque à équivalence. Mm-hmm. Deuxième fois, pareil. Et la troisième fois, là, c'est l'époque Covid.
Voilà, donc 2021.
Voilà, c'est l'époque Covid. Et il y a une chose qui est très différente entre... Il y a plein de choses qui sont très différentes entre nos façons de faire, d'être, d'exister, quoi. Le peuple mélanésien, c'est que il y a des coutumes, enfin il y a une coutume, il y a des traditions, il y a plein de choses, et notamment le deuil. Alors chez nous, moi je me souviens que les anciens chez moi là en Bretagne, ils disaient bon, le deuil c'est un an, on était en noir avec les... enfin, pas moi, mais mes grands-parents, ça bon. Mais c'est aujourd'hui c'est très important le deuil, c'est-à-dire mm-hmm. qu'on fait une coutume spécifique. Et donc ce sont les Canins qui ont été les plus touchés au moment du Covid, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes systèmes immunitaires que nous. Ils ont été vraiment pas mal touchés. Ils ont eu pas mal de morts. Ils n'ont pas pu faire des cérémonies comme ils l'auraient voulu, qui sont quand même des cérémonies importante. Hein. Et donc, ils ont fait ça sur des parkings, parce qu'il fallait... Il y a pas mal de vidéos qui montrent ça sur la chaîne qui s'appelle Calédonia. Et c'est assez pathétique, parce que c'est sur un parking, parce qu'ils font la coutume avec les manous par terre, etc. Pour se donner le temps de le faire vraiment après. Mmh. Et donc, ils ont dit, ben non, on ne peut pas le faire en décembre 2021. Ça avait été avancé un peu. C'était prévu en 2022. On ne peut pas le faire à cause de cette histoire de deuil. Ça a été pris comme un prétexte. Mmh. Du coup, le troisième référendum a été boycotté par les Kanaks. Et voilà où on en est.
Donc majorité, cette fois, contre l'indépendance.
Alors, les deux autres fois, c'était aussi... majorité contre l'indépendance, mais très faible par rapport aux autres. C'était ça qui avait vraiment alerté beaucoup.
Alors que là, c'était plus net, en fait.
Ah bah là, c'était 98%, puisqu'ils n'étaient pas allés voter. Donc là, c'était même pas... C'est un référendum qui... Enfin, donc c'est un référendum qui concerne un peuple autochtone, en fait. Et ce peuple-là n'a pas été voté. Donc c'est un peu particulier quand même. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à dégénérer. Ça veut dire qu'en fait, moi, je suis allée en novembre 2023, c'est l'année dernière, il y a peu de temps.
Le feu couvait déjà sous la cendre.
Oui, ça fait... en fait, ça fait depuis 2022 que ça couve. Et en fait, en 2023... Alors, c'est vraiment étonnant, parce que les gens qui habitent là-bas, et je crois que c'est tout à fait normal. Quand on habite là-bas, c'est aussi une façon de continuer à vivre, d'intégrer tout ce qui se passe, de l'assimiler en se disant... Bon, ça va quand même. Jusqu'ici, tout va bien. Mais quand tu viens de l'extérieur, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand tu vois un Nouméa... parce qu'on parle de rééquilibrage, tout ce temps-là, c'était pour rééquilibrer les choses. Et en fait, quand tu vois que les inégalités sociales en Nouvelle-Calédonie, c'est le truc qui te saute aux yeux quand tu arrives à Nouméa. Vraiment fort. En brousse, non. Mais à Nouméa, il y a vraiment deux mondes. Et moi, je n'étais pas retournée depuis 33 ans. Et honnêtement, c'est ça qui m'a sauté aux yeux.
Et elles sont marquées ethniquement, entre guillemets, ces inégalités sociales, c'est ça?
Très.
En gros, quand on est Kanak, on est pauvre. Et quand on est...
Il y a des Kanaks qui ne sont pas pauvres, donc ce n'est pas tout. J'ai quand même pris quand même quelques chiffres qui sont, je trouve, intéressants. Parce que ceux-là, je ne voulais quand même pas les... moi, ce que j'ai vu, et du coup, il faut quand même savoir qu'il y a 100 000 habitants, à peu près, à Nouméa. Alors, vraiment, l'hypercentre, je ne peux pas dire combien il y a, mais bon, moi, les gens que je voyais, c'était dans l'hypercentre. C'est-à-dire là où il y a la mairie, là où il y a la place des Cocotiers, là où il y a maintenant la grande statue avec Jean-Marie Tchibaou... et Jacques Lafleur qui serre la main, voilà, c'est pour dire que la paix, c'est quand même chouette. Et donc, il y a entre 600 et 700 personnes qui sont sans logement et qui vivent dans les rues de Nouméa. Ce qui veut dire qu'en fait, moi j'habitais dans le centre-ville de Nouméa avant. Enfin, plein centre, c'est-à-dire pas près des plages, tout au début. Bon, voilà, c'était très cool. Enfin, il n'y avait pas... là, je n'ai pas trouvé ça cool du tout.
On voit la pauvreté, en fait.
Bah, tu la vois partout.
Et c'est pour ça que ces émeutes ont démarré à Nouméa. En fait, c'est parce que c'est des émeutes sociales, avant tout. Qui sont les émeutiers
C'est plutôt des jeunes. Il y a un chiffre qui m'a interpellée ce matin, parce que je regardais un petit peu avant de venir te voir. C'est vraiment des chiffres qui sont un peu dramatiques, qui sont des chiffres qu'on voit dans les pays en voie de développement. D'abord, 69% des décrocheurs au niveau scolarité sont Kanaks. La problématique en Nouvelle-Calédonie, c'est les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales. C'est énorme. Par exemple, 19% des femmes ont été victimes d'agressions pendant les 12 derniers mois. C'est 2,3% ici, en métropole, en France. Au niveau de l'alcool, 20% des jeunes calédoniens de 11 ans ont déjà consommé de l'alcool. Cannabis... Alors, le cannabis, bon, ça, on va dire, ben, nous aussi, hein. C'est sûr, en France aussi. Le truc, c'est qu'en fait, la teneur en THC est énorme. Alors, ça, vraiment, c'est des sources de l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie. Donc, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, la teneur en THC est très, très, très forte. Et comme, en fait, c'est cultivé sur des sols qui sont des sols miniers, on en parlait tout à l'heure, c'est bourré de métaux lourds. Donc, inutile de dire qu'au niveau des impacts que ça peut avoir sur les cerveaux des jeunes, c'est quand même... Voilà. Donc,
et donc
ce qu'on
le CCAT
a vu, c'était ça.
Et le CCAT, c'est ça.
La cellule de coordination d'action de terrain. Elle a, en fait, elle a été créée quand j'étais là-bas en novembre 2023. Et elle a été créée pour coordonner les mouvements pacifistes. Il faut savoir que les mouvements pacifistes, mais pour les développer en fait, parce qu'il y avait cette peur, ils savaient tous qu'en fait, il y avait d'abord le Sénat qui a voté, et ensuite l'Assemblée, donc là je parle du Sénat, non pas du Sénat coutumier en Nouvelle-Calédonie, mais du Sénat chez nous en France, et puis ensuite l'Assemblée nationale, et donc ils préparaient tout ça.
C'était pour maintenir un mouvement indépendantiste en
Absolument.
Fait.
Absolument. Et en fait, les membres là qui ont été incarcérés en France, ce qui est rare, hein. C'est, ça rappelle ce qui s'est passé dans les années 80, justement. Dans les années 80, y a eu des procédés de ce type-là. Voilà. Donc c'est quand même... voilà. Je ne sais plus ce que c'était ta question.
Mais non, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, on va devoir s'arrêter là, car c'est déjà la fin de l'émission.
Voilà.
Donc, on renverra aussi les gens dans le podcast, vers le souhait de Véronique, de créer un réseau des gens qui ont des attaches avec la Nouvelle-Calédonie depuis le Finistère, afin qu'on puisse continuer en fait, ces dialogues, à la radio ou pas d'ailleurs.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Véronique.
Merci.